2015, c'est une nouvelle année à peine amorcée, je le disais, mais c'est aussi une année charnière où plusieurs intervenants auront à se pencher de nouveau sur les objectifs du millénaire formulés par l'UNESCO, un sujet que vous verrez circuler, entre autres, sous le titre « Objectifs post-2015 », où il sera question des enjeux en matière d'éducation des adultes. Un rayonnement mondial, mais aussi une réalité tout à fait semblable ici, localement, pour nous guider dans cette réflexion sur les objectifs et approfondir ce sujet, apprivoiser les éléments. Nous accueillons Daniel Barry, agent de recherche à l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Bonjour, M. Barry.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation d'Emmanuel à venir participer à l'émission. Ce serait intéressant de faire un peu un retour pour nous expliquer comment ces politiques internationales ont été définies au fil du temps, parce que ça a connu une évolution.
C'est un peu comme la Maison des fous dans Astérix, ce bâtiment aux multiples pièces. De la même manière qu'au Québec, par exemple, à tous les 5, 6, 7 ans, le gouvernement va définir une politique en éducation ou sur d'autres sujets, la même chose se produit à l'international. C'est l'ONU sur l'ensemble des questions de société et l'UNESCO sur les questions d'éducation qui sont responsables de consulter les pays. Nécessairement, c'est des processus complexes. Il y a plus d'une centaine de pays, donc ce travail-là se fait dans des instances, des regroupements, et à certains points de passage importants, c'est l'Assemblée générale de l'ONU et la Conférence générale de l'UNESCO, qui sont une genre d'Assemblée générale de gens qui représentent les pays. Donc, en éducation, il y a eu en 1990 l'éducation pour tous, un grand document qui invitait les pays surtout à alphabétiser et donner une éducation de base à tout le monde, les jeunes en particulier, mais les adultes étaient mentionnés. Mm-hmm. Ce document-là devait se terminer en 2015. En 2000, les objectifs du millénaire touchaient à l'éducation, mais touchaient aussi la pauvreté, la santé des enfants, la santé maternelle, etc., des enjeux socio-économiques. Et ce document-là aussi devait guider les pays jusqu'en 2015. Donc, on voit qu'au niveau international, des grands documents adoptés par les pays viennent à échéance en 2015. Peut-être une petite précision, quand l'ONU et l'UNESCO adoptent des grandes déclarations, c'est pas des lois internationales qui obligent les pays de les mettre en œuvre.
Ça n'a pas de valeur contraignante.
Non, pas contraignante et à peine juridique. Mais quand les pays votent, selon les statuts de l'ONU et de l'UNESCO, votent ces documents-là, ils s'engagent. Mm-hmm. Ils s'engagent à une chose, à les mettre en œuvre dans les programmes et les lois nationales. Donc, leur importance, c'est après d'être un levier. Petit exemple, la semaine des adultes en formation avait été adoptée en 97 dans une grande déclaration de l'UNESCO. L'ICA a pu s'appuyer sur cette déclaration-là et relancer le gouvernement du Québec qui, par l'intermédiaire du Canada, l'avait adoptée. Et localement, donc les engagements globaux pris par le Québec et le Canada ont permis à l'ICA localement de dire « ben vous aviez voté cette chose-là, maintenant on vous demande de le faire ». Donc, il y a une espèce d'embouteillage en 2015 où plusieurs grands documents internationaux viennent à échéance. Et l'UNESCO, selon sa manière de travailler, a amorcé depuis 2012 un grand processus de consultation qui va aboutir à l'automne prochain.
Oui. C'est bon. Déjà, les acteurs au cœur de cette réflexion-là, si on avait à les définir, vous l'avez fait un peu, là, mais juste pour nous aider à bien suivre.
Au-delà
tout ça,
les pays, les représentations officielles des pays, il y a le Conseil international de l'éducation des adultes, qui est un peu comme l'ICA, mais à l'échelle planétaire, un réseau qui représente l'ensemble, qui réunit l'ensemble des organismes de la société civile en éducation des adultes et qui est divisé en grands territoires, Europe, Amérique du Nord, Asie, Afrique, Amérique latine. Et cet organisme assure la représentation de la société civile à l'intérieur des processus de l'UNESCO. C'est les deux joueurs essentiels. Un peu comme au Québec, il y a l'État et la société civile qui chacun a ses structures de représentation. Il y a un miroir au niveau international et ça se joue principalement dans les grandes instances de l'UNESCO et dans des conférences qui sont faites à différents moments, dont une en éducation qui va avoir lieu en mai prochain, un forum mondial sur l'éducation de l'UNESCO, où les pays-là vont finaliser leurs propositions qui sera intégrée dans le nouveau grand document international qui va guider les pays pour 15 ans. Donc, il y a beaucoup d'échelles, il y a beaucoup de pièces dans cette maison-là, mais essentiellement, c'est la même chose qu'au niveau du Québec quand la société civile et l'État se rencontrent pour décider ensemble de grande orientation. La même chose se produit, c'est juste plus compliqué, puis il y a beaucoup de monde, puis il y a des différences culturelles incroyables entre les différents continents, et l'éducation, c'est un droit universel, mais ça a des couleurs locales à l'infini, quasiment.
Oui, les réalités sont tellement différentes d'un endroit à l'autre, mais même ici au Québec, c'est pas homogène de toute
d'une
façon.
D'une région à l'autre, c'est
oui,
tout à fait.
Oui, c'est ça. Donc, on comprend que cette consultation-là, depuis 2012, a connu diverses étapes que vous avez dessinées pour nous un peu. Quels sont les engagements des pays, mais plus particulièrement du Canada et du Québec à ce sujet?
De manière générale, ce qu'on voit dans le débat, c'est encore une fois, l'éducation des jeunes prend beaucoup de place. On pourrait dire c'est normal, il faut, faut former les jeunes, il faut leur donner un premier diplôme, puis si on a le temps puis des ressources, on s'occupera des adultes. Et malheureusement, l'éducation des adultes a encore de la misère à trouver une place dans tous ces grands débats-là, malgré son importance, sa nécessité croissante. Donc ça, c'est de manière générale. J'ai pu voir un peu avant Noël, dans une rencontre de la Commission canadienne de l'UNESCO sur l'éducation, la position officielle du Canada. Et dans ce débat-là, le Canada ne parle absolument pas d'éducation des adultes, même pas de formation de la main-d'œuvre. Donc, ce défi-là à l'international qu'on voit de faire valoir et de défendre l'éducation des adultes, on le vit tout à fait au Canada. Il faut amener le gouvernement fédéral à parler d'éducation des adultes. Et on voit aussi au Québec que l'éducation des adultes a tout le temps de la misère à se placer. Pourtant, au quotidien, c'est une évidence que les gens doivent se former comme travailleurs, comme parents, comme citoyens. Dans toutes les facettes de notre vie quotidienne, il faut en savoir plus pour pouvoir prendre notre place et s'épanouir. Mais malgré ça, et malgré une rhétorique qui dit souvent que c'est important, dans les faits, le gouvernement du Québec et surtout le gouvernement du Canada qui nous représente dans ce débat international-là ne parle même pas. On n'est même pas à s'opposer à leur manière d'en parler. On est juste à souhaiter qu'ils en parlent d'abord et avant tout. Et moi, ça me fait remarquer que malheureusement, le Québec et le Canada sont en phase avec le débat international, mais dans sa dimension négative, par le fait qu'on n'en parle pas, ou très peu, ou à peine, ou quand on en parle, c'est limité à l'alphabétisation, comme la vieille idée des années 50 de l'éducation des adultes comme école de deuxième chance. On a dépassé ça complètement, on est au 21e siècle, et maintenant les connaissances sont les instruments quotidiens des gens, et dans le débat international, comme dans le débat au Canada, comme dans le débat au Québec, on est en phase avec ça. Moi, ça m'a réconforté parce que ça démontre que la tenue à Montréal de l'Assemblée mondiale du Conseil international sur l'éducation des adultes est tout à fait pertinente, et on n'est peut-être pas dans des situations difficiles comme certains pays du Sud, mais ici aussi au Nord, il faut se battre pour quelque chose aussi évident que l'éducation des adultes soit dans les politiques, et aussi de faire en sorte que le droit à l'éducation soit compris comme pas juste le droit des jeunes à l'éducation, mais le droit universel de tout le monde à pouvoir acquérir les connaissances et les compétences qui permettent aux gens de vivre leur vie correctement.
Qu'est-ce qui expliquerait ce manque de sensibilisation ou de réceptivité, en tout cas, à ces enjeux-là?
Ma petite analyse d'expert, c'est deux idées. Un, dans un contexte de budget limité, on se dit on va aller à l'essentiel, et l'essentiel, c'est les jeunes. On verra après pour les adultes. Deux, l'éducation des adultes est un marché privé. On veut le laisser privé. OK, financer l'alphabétisation, c'est un peu finir la job qu'on n'a pas fini chez les jeunes. Mais pour tout ce qu'il reste, que les entreprises s'occupent de financer leur monde, que les gens qui veulent être des citoyens s'occupent d'aller chercher les connaissances qu'ils ont besoin, qui se forment par eux-mêmes, par YouTube, par d'autres, etc. Et vu que c'est vu comme privé, des fois, pour certains pays, c'est même pas entendu dans leur tête que le droit universel à l'éducation inclut les adultes. Pour eux, c'est de donner un premier diplôme à tous les jeunes. Puis dans certains pays, leur permettre de finir le primaire, hein, et même pas au secondaire. Oui. Fait que je crois que des budgets limités qui visent à financer l'essentiel, donc les jeunes dans leur compréhension, et de garder l'éducation des adultes comme un marché privé, c'est selon moi les deux trames de fond qui font que l'éducation des adultes, on essaie de presque pas en parler, de laisser au débat public, pas au débat des politiques, et quand on en parle, de dire bon, ça va se limiter à l'alpha.
Est-ce que quand même, à travers ce constat-là, qui est assez dur, mais parce que vous êtes réaliste là-dedans, mais est-ce qu'il y a quand même des réalisations mesurables depuis que ça a commencé à faire l'objet de discussions, même si les engagements ne suivent pas?
Sur la question, Et ça, c'est un constat, un bilan qui a été fait. Les instruments de, que je disais tout à l'heure, d'éducation pour tous de 90 et des objectifs du millénaire, il y avait des engagements en éducation. Mais tous les suivis qui ont été faits n'ont pas mesuré les avancées en éducation parce que tout le monde s'est concentré sur les jeunes. Donc, on manque d'instruments efficaces. Il y a quand même quelques statistiques sur les taux de participation au non formel, donc au scolaire et à ce qui se passe en dehors du scolaire, le non formel. On voit que le Québec stagne, entre autres, en participation à la formation de la main-d'œuvre au Québec. Le Québec est la dernière province, la province qui a le plus bas taux. À une époque, à un moment donné où on entend le patronat dire qu'il faudrait couper la loi du 1 %
oui.
On est la pire province au Canada, même avec cet instrument-là. Il oui. faut le renforcer puis le repousser vers l'avant. Dans ces contextes-là, on peut voir. Mais l'autre côté, c'est qu'il y a une société civile hyper développée en éducation des adultes au Québec. Vous avez eu les gens des CLD avant moi et vous aurez l'éducation populaire après, où on voit que dans les milieux, il y a de l'éducation. Ces milieux-là ont besoin d'un coup de main. Ils ne demandent pas de, des milliards de dollars, ils demandent un coup de main financier pour pouvoir continuer ce travail-là et former les gens de manière très proche. Et c'est là, quelque part, que le grand thème de l'Assemblée mondiale, engagements globaux, actions locales, prend tout son sens. Il faut, à l'international, placer l'éducation des adultes pour qu'après, on puisse utiliser ces déclarations-là au niveau local pour continuer de pousser et faire que les acteurs terrains se voient reconnus pleinement par leur gouvernement et reçoivent pas quémander des subventions. C'est nos impôts, c'est des fonds publics, ça appartient à la population. L'impôt et les subventions, c'est pas une machine distributrice. On l'a, cet argent-là, elle est là pour les gens et pour les organismes qui aident les gens. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre. C'est un peu le bout d'espoir dans mon jugement réaliste, là, à force. Je vous disais un petit peu à la blague en pré-entrevue qu'on est peut-être 4-5 personnes au Canada qui creusent ces débats-là. Notre rôle, c'est d'en parler. Et c'est pour ça que l'ICA existe, de pouvoir oui. se concentrer sur ces choses-là et alimenter les réseaux, les alimenter sur ce qui se passe pas, les défis, sonner l'alarme. L'Assemblée mondiale s'inscrit là-dedans. On va pouvoir permettre aux gens du Québec de participer à ce débat-là. Mais aussi, le débat de politique d'austérité est un exemple au niveau du Québec d'une chose qui se passe à l'international. On coupe, on ne parle pas d'éducation des adultes en coupant, et ça a des effets catastrophiques sur des infrastructures réelles qui aident les gens quasiment dans leur cuisine à se former. Et vous allez voir que l'éducation populaire, quand je dis quasiment dans leur cuisine, c'est littéralement ça.
Oui. Bien, on peut que souhaiter alors que l'écoute soit davantage affirmée en 2015, et c'est sûr qu'on peut compter sur le travail de l'ICEA à ce sujet. Alors, merci beaucoup, M. Daniel Barry, agent de recherche à l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, qui est venu, j'espère, vous éclairer un peu, chers auditeurs et auditrices, à comprendre mieux ces enjeux-là.